Parole Rurale, une émission de reportage à la rencontre des paysans du Sud Aveyron, où l'agriculture racontée par ceux qui la font. Direction le nord du Causse du Larzac, pour y rencontrer Morgane et Gwen, qui ont rejoint l'oncle de cette dernière pour prolonger l'activité au vin, tout en développant le modèle économique.
Bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît ?
Alors, moi c'est Morgane, j'ai bientôt 40 ans, donc on est à Millau, au GEC de la Clapade.
Sur le plateau du Larzac.
Sur le plateau du Larzac,
exactement. Et oui, juste au-dessus de la Dourbie, moi c'est Gwenaëlle, j'ai également bientôt 40 ans. Et on est en GEC à 3 associés, donc Morgane, Gwenaëlle, et puis Jean-Claude qui est en fait mon oncle. Mais qui est aussi du coup notre prédécesseur sur la ferme, l'un des deux créateurs de la ferme.
Et alors sur la ferme de la Clapade, quelle est votre activité ou vos activités?
Alors l'activité principale c'est la viande d'agneau, donc on aperçoit les brebis là-bas au loin.
Ouais.
On fait un peu de polléné avec nos agneaux. Et moi en m'installant, j'ai créé un petit atelier de champignons.
D'accord.
Donc je produis des pleurotes en cave, vu qu'on a pour le coup récupéré une ferme avec beaucoup de bâtiments, des caves très belles, très anciennes et qui permettent ce type de production.
Comment ça s'appelle ? Missiculture ?
Missiculture,
oui. Missiculture.
Missicultrice.
Et toi, Gwen, tu es plus spécialisée sur les brebis ?
Alors oui, on se répartit les tâches sur le GAEC. Effectivement, Morgane est sur les champignons, donc la production, la commercialisation. Moi, je suis sur le troupeau, la gestion du troupeau. Il y a 250 brebis qui font à peu près autant d'agneaux chaque année. Mmh. Et pareil, je suis du côté production et transformation, ainsi que commercialisation. On en parlera peut-être un peu plus tard, mais effectivement, tout dans cette ferme est commercialisé en vente directe et transformé par nos soins. Et enfin, Jean-Claude, le troisième associé, c'est vraiment... lui, il a une fonction assez polyvalente, puisqu'il sera, lui, en soutien logistique sur les deux ateliers. Donc, on fait tout par nous-mêmes, donc la pose des clôtures, l'aménagement des bâtiments, etc., pour la production des champignons. Et puis, il travaille sur les parcs des brebis pour dégager des espaces packageables, puisqu'on a une ferme qui est très très boisée. On a énormément de forêts, on travaille beaucoup en ravin. Donc évidemment, comme dans beaucoup d'endroits, les espaces se referment. Donc lui, concrètement, il va aller exploiter le bois en forêt sur des zones qui vont être, pour le coup, sélectionnées pour les besoins du troupeau. Donc vraiment, on ne va pas couper comme ça au hasard. Et une fois qu'il a coupé le bois, il y a une étape de girobroyage, donc il broie tous les résidus, et après le sol se régénère, et quelques années plus tard, on a de l'herbe pour les brebis.
D'accord.
Donc ça, c'est une fonction...
Il broie sur place, il laisse sur place le broyage.
Voilà, d'accord. On laisse tout sur place. Et ça, c'est vraiment une fonction très très importante dans des fermes comme les nôtres, où si on n'intervient pas, il y aura de moins en moins d'espace pour les troupeaux ou le troupeau.
Et c'est pas un avantage en été de faire paître les troupeaux sous forêt ?
Si, si, c'est un énorme avantage. Après, à nous de maintenir quand même en proportion suffisamment d'espace enherbé. Parce qu'en plus, nous, nos forêts, on a essentiellement évidemment du pin dans la région et il n'y a pas grand-chose au pied, quoi.
Ouais.
Nous, on est sur un système, au niveau de notre troupeau, tout à l'herbe. C'est-à-dire que nos brebis sont toute l'année dehors et ne se nourrissent que de l'herbe au sol. Donc, c'est à nous d'être vigilants pour qu'elles aient tout le temps une quantité suffisante d'herbe pour se nourrir.
Et donc, ça fait combien de temps que vous êtes installé à cette ferme ?
Alors, moi, ça fait un an. Ça fait depuis février 2021. Et Gwenaëlle, ça fait depuis août.
Depuis l'été 21. Ouais.
D'accord, ouais, c'est tout récent.
C'est tout récent.
Ouais, c'est tout récent. On est arrivé en 2020 ici. On arrivait de la région Rhône-Alpes. Nous avons réalisé des travaux de rénovation sur le bâtiment qu'on habite, sur la maison qu'on habite, un petit peu en amont de notre installation en agriculture, puisqu'ici, c'était donc des bâtiments SCTL, intégralement en ruine, détruits. Il n'y avait plus aucune charpente, il n'y avait que les quelques murs qui tenaient encore. Donc avant de déménager avec notre fils, on a décidé donc de lancer les travaux de rénovation pour qu'au moment où on déménage, on ait un toit sur la tête. Mmh. Voilà, on est arrivé à l'été 2020. Et
auparavant, vous étiez déjà dans le domaine agricole ?
Absolument pas.
Qu'est-ce que tu faisais ?
Moi, je travaillais dans le domaine informatique, je testais des logiciels côté de Lyon, classique.
T'as fait ça longtemps ?
Je fais ça une petite dizaine d'années.
C'était le fruit de tes études ?
Absolument pas non plus. Non, ah, j'ai fait des études de langue, j'étais partie pour voyager un peu, puis je me suis retrouvée de fil en aiguille, un peu au hasard, à travailler voilà, à Lyon. Ça m'a convenu pendant quelques années. Et puis voilà, après il y avait toujours un petit truc qui trottait dans la tête. Au niveau de la cohérence globale de nos existences, qui voulait que est-ce qu'on se rapprocherait pas d'un travail direct à la terre, quoi, en fait. C'est pour ça que ça fait des années qu'on en parle, et puis qu'on a eu la possibilité de réaliser ce projet, quoi.
D'accord. Et toi, Gwen, apparemment, tu faisais quoi ?
Moi, je faisais de la recherche et de l'enseignement, du coup, dans le domaine scientifique. Plutôt sur Genève. Donc on habitait entre Lyon et Genève, puisque l'activité de Morgane était à Lyon et moi plutôt en Suisse. Mais moi j'ai mes racines ici, puisque la ferme est la ferme de mon enfance. Mon oncle et ma tante, j'y suis très très attachée. J'ai passé énormément de temps sur cette ferme, toute mon enfance durant. Et j'étais très attachée au lieu, bien sûr, à la région. Mais surtout, je pense professionnellement parlant désormais, à leur activité telle qu'ils la menaient. Telle qu'ils la menaient depuis enfance. C'est une pratique d'élevage qui, moi, me faisait rêver.
D'accord.
Individuellement.
Donc en venant ici, tu savais ce que tu voulais
comme Oui, tout à fait, puisque lorsqu'on s'est reconverti et qu'on a donc suivi des études agricoles à 35 ans à peu près, j'ai surtout découvert ce qu'était l'élevage le plus répandu, et je suis tombée de haut parce que moi, jusque-là, l'élevage, c'est tel que je l'avais connu ici. Et en faisant ces études, j'ai vraiment compris que j'ai découvert ce que je voulais surtout pas faire. Une pratique un peu plus intensive et en bâtiment, un mode de commercialisation dont on n'est absolument pas maître. Et des éleveurs globalement que j'ai croisés plutôt en souffrance, dans le sens où ils subissaient leur place. Et moi, ça m'a longtemps posé question, ce rapport au travail qui était complètement subi, quoi.
Et donc, en arrivant ici, pourquoi avez-vous choisi, pourquoi toi, Morgane, t'as choisi de faire du champignon? Déjà, parce que ça, c'est le plus...
Ouais. Alors, c'est un heureux hasard, on va dire, parce que, pour le coup, Gwen, elle s'est formée, donc elle a découvert ce qu'elle voulait pas faire. Moi, je me suis formée au départ, je souhaitais faire des plantes aromatiques et médicinales. Et pendant ma formation, moi, j'ai eu l'occasion de me former à pas mal de petits trucs, donc aux plantes aromatiques et médicinales, super, aux champignons, mais aussi un peu d'apiculture, aussi un peu de maraîchage, pas mal de trucs, quoi. Et c'était ultra intéressant. Et puis, quand j'ai découvert les champignons, non seulement ça m'a plu, et puis ça a fait tilt, connaissant les bâtiments, donc tu verras tout à l'heure, je voyais tout à fait comment on pouvait mettre en place ce projet, quoi. Et je me suis dit, banco, c'est pas moi, c'est là où il faut que j'aille. Par rapport à mon projet, quoi. Après coup, on m'a dit effectivement les plantes, ça risque d'être compliqué parce qu'il y a beaucoup de monde, etc., ce qui n'était pas faux d'ailleurs, et ça m'a conforté dans l'idée de mettre en place cette petite culture champignonnière en cave.
Ici, on est dans un bâtiment qui appartient à la SCTL.
Ouais.
D'accord, donc vous êtes passé devant le jury, tout ça, vous avez soumis un dossier.
Alors en fait, pas exactement, dans la mesure où, comme le GAEC existait déjà et avait déjà le bail au niveau du bâtiment des terres, nous on a fait les choses dans l'ordre, on s'est présenté à la SCTL, on a présenté notre projet, et puis de toute façon ils nous ont dit oui, mais il n'y avait pas d'autres candidats en concurrence entre guillemets, c'est-à-dire que comme on reprenait la ferme, on reprenait la place et on était dans la continuité.
En fait, on est dans le cas de figure où on a un remplacement d'associé, c'est-à-dire que le GAEC poursuit son activité telle qu'elle existait. Et dans ce cas, finalement, ce sont les GAEC qui intègrent de nouveaux associés. Et on ne passe pas.
Mais c'est pas comme si on prenait la ferme hein, où il n'y avait personne.
Voilà. Exactement. Lorsqu'il n'y a pas de repreneur à l'intérieur même du GAEC, dans le sens où le GAEC ne trouve pas, bah, soit les personnes veulent cesser leur activité et n'ont pas de repreneur, effectivement, après, la ferme est proposée en appel à candidature. Mais si le GAEC persiste, eh bien, il est souverain, finalement, dans ses choix.
D'accord. Et alors, Gwen, j'ai oublié de te demander tout à l'heure, pourquoi est-ce que tu as choisi d'élever des moutons, toi?
C'est une pratique que je connais depuis que je suis enfant, cette pratique-là. Le fait de travailler avec une race rustique, en plein air, de travailler la viande, moi, tous ces aspects-là m'intéressent fortement. J'aurais tout à fait pu reprendre une autre activité. L'élevage m'intéresse, forcément. Mais là, je dois dire que c'est plutôt mon histoire personnelle qui parle. Que depuis enfant, moi, je rêve tout simplement de vivre ici et de travailler ici. Donc, pourquoi ? Parce qu'en fait, à l'origine, cette ferme est née de rien du tout. Mon oncle et ma tante sont arrivés avec aucun moyen à l'époque. Et avec quelques voisins, ils ont eu la très très bonne idée, l'excellente idée de concevoir l'outil de transformation de nos viandes et de commercialisation de nos viandes ensemble. Mmh. Et moi, c'est plus dans ce cadre-là que je m'inscris au niveau professionnel. J'aurais pu travailler sur d'autres types d'élevage, hein, mais c'est bien plus cet environnement-là qui, moi, m'intéressait. Donc, il s'avère que je reprends le troupeau de brebis allaitantes et que je produis de la viande d'agneau. Mais voilà, ça aurait été...
Toi, ce qui t'intéressait vraiment, c'était de maîtriser la chaîne du début à la fin.
Ah ouais, 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 ce contexte où en fait, on fait tout en collectif. Mmh. On est sur nos fermes individuellement, mais voilà, aujourd'hui, mes agneaux sont partis à l'abattoir. Vendredi, ils sont découpés par mes collègues avec qui je suis en groupement, moi, pour découper la viande. Et samedi, je fais le marché à Montpellier pour vendre cette viande-là, mais aussi la viande de mes collègues. Mmh. Et ça, c'est un... Moi, je trouve que c'est un contexte qui est très épanouissant. C'est vraiment quelque chose qui me parle parce qu'on est inscrit dans divers outils en fait, collectifs où le groupe est là. Lorsque tu commences une activité, ce groupe t'accueille et te porte en début d'activité. Alors ça, c'est absolument pas négligeable, quoi. Et je trouve que c'est très stimulant que de s'astreindre à avoir une réunion mensuelle, de gérer ces outils-là ensemble, de très souvent ne pas être d'accord. Voilà, ouais, pour moi, c'est un grand plaisir que de travailler comme ça. Et c'est une ambiance que je connaissais dans mon précédent métier. Voilà, la manière dont je travaillais avant est quasi similaire, quoi. Donc je le retrouve et j'y tiens beaucoup. Il y a eu un gros boulot fait par la génération qui nous précède. Et pour moi, c'est essentiel de le rappeler. Pour beaucoup de reprises, pas toutes les reprises, mais quand même pour beaucoup de reprises aujourd'hui sur le plateau du Larzac, l'outil de production est bien en place. L'outil de commercialisation est également bien en place. Donc les jeunes qui s'installent aujourd'hui, n'ont pas vraiment besoin de s'endetter outre mesure, puisqu'on n'a absolument pas le foncier à racheter, les bâtiments ne sont pas rachetés, on paye une valeur d'usage de tous ces biens. Ça réduit nettement la facture hein, quand tu t'installes, mais c'est vrai qu'on reprend des outils qui tournent.
Ok. Donc là, Morgane, tu m'amènes dans l'antre.
Voilà, l'antre de la bête.
Alors, wow.
On ne circule plus trop maintenant. Parce qu'il y
en qu'est-ce que c'est tous ces seaux? Donc, ce on dirait des seaux alimentaires.
Exact, ce sont des seaux alimentaires blancs, tout à fait, qui sont percés, tu peux le voir.
Oui.
Et par les trous sortent des pleurotes.
Ah ouais, c'est trop marrant. Alors, il y a des trous d'environ 1 cm de diamètre dans des grands seaux de quoi ? 10 litres ?
C'est des 20 litres, ouais.
20 litres.
20 litres.
Rempli de quoi ?
Eh bien, de substrat, donc qui est fabriqué sur la ferme.
Oui.
Donc, c'est un substrat qui est fait à base de paille, dans lequel on va rajouter du tourteau. Alors, c'est ce que je trouve à proximité. Donc là, j'ai une copine qui fait du tourteau de tournesol de cameline, donc je lui achète. Mmh. On rajoute quelques protéines, des pois, du triticale, etc. On va faire pasteuriser tout ça dans une grande cuve. Et ensuite, on va ensemencer, c'est-à-dire qu'on va mettre du mycélium, donc les pleurotes, les fameux pleurotes dedans. Et puis, on va les faire incuber.
Et comment tu trouves ton mycélium ?
Eh bien, ça, je l'achète.
Il
n'y en a pas beaucoup qui produisent du mycélium en France. Bon, je vais dire, il y a peut-être un fournisseur de mycélium en France, peut-être deux, sinon il faut aller en Belgique ou au Canada. Et donc, tu peux acheter du mycélium de pleurote, de champignons de Paris, de shiitake aussi.
Chaque année, tu es obligé d'en racheter ou tu peux profiter toi de ta récolte ?
L'idéal serait, c'est vraiment le pied de pouvoir faire ça, ce serait de prendre un petit pleurote et puis de faire son propre mycélium avec.
Oui. Bon,
malheureusement, je n'ai pas le temps, puis je n'ai pas le labo et toute l'installation qu'il faudrait. Quoi.
D'accord.
Mais c'est possible, ça peut se faire. Ça peut se faire. Voilà.
Ok. Et donc tout ça, c'est des pleurotes, même s'ils n'ont pas forcément la même couleur.
Exactement. Il y a deux variétés.
Il y a des jaunes et des gris.
Il y a des jaunes et puis des gris. Donc,
d'accord.
Pleurotes jaunes.
Ouais, c'est joli comme tout.
Ouais, il est joli, il sent bon.
On dirait des fleurs, presque.
Et ils sont magnifiques. Ils ont un goût un petit peu plus fin. Ils sont un peu plus. C'est des champignons un peu plus tropicaux, ceux-là. Mm-hmm. Ils aiment plus la chaleur et plus l'humidité.
D'accord.
Et les pleurotes gris, c'est le plus classique. C'est ce qui se rapproche un peu de ce qu'on trouve aussi dans la région. Les fameuses oreillettes que tous ceux qui connaissent. Enfin, il y en a beaucoup qui connaissent et qui viennent les récolter. L'autre petite pièce que je vais te montrer, c'est là où on va faire incuber les pleurotes. Donc tu as une partie, comme je t'expliquais, quand on va pasteuriser les seaux, on va les mettre le mycélium. Je ferme les seaux et je les emmène ici. Mmh. Donc ça va être une période d'incubation qui va durer environ 3 semaines. Et au bout de 3 semaines, alors je ne sais pas si on peut voir là où ça a commencé, en fait, où on aperçoit un petit peu de blanc, ça veut dire que le champignon, il est en train de pousser.
D'accord.
Et donc là, normalement, début de semaine prochaine, il va sortir. Je vais le déplacer dans l'autre partie de la cave. Mmh. Et encore une semaine après, je vais pouvoir récolter. Donc il faut à peu près un mois, en fait, à partir du moment où je fabrique mon substrat jusqu'à la récolte, pour avoir des champignons.
Tu m'as dit, il faut un mois à peu près avant que les champignons sortent.
Voilà, avant de pouvoir les récolter.
Tu les passes à côté.
Ensuite, je les passe à côté. Ils vont pousser, je vais les récolter. Et puis au bout de 2 semaines, ils vont repousser, je vais les récolter. Et encore au bout de 2 semaines, je vais les récolter encore une volée. Mmh. Et ensuite, je vais les sortir. Parce que après, c'est simplement une histoire de manque de place. C'est que donc là, il y a un lot qui va sortir, un autre qui va partir, ensuite un autre, et puis ça va tourner comme
d'accord.
ça.
Donc, grosso modo, tu extrais pendant 3-4 récoltes par seau.
C'est ça, on appelle ça, on dit que c'est des volées, il y a 3 volées par seau. Tu peux en faire 4 ou 5 si tu veux. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, les dernières volées que tu as récolté 2-3 champignons, il y a moins. Alors après, moi, ce que je fais, c'est que je vide les seaux. Donc, il y a plein de paille dedans. Je m'y fais un gros tas de paille, je suis un joli truc. Et puis tu repasses, pour peu qu'il y ait une petite pluie qui vienne, 2 semaines après, tu peux re-récolter en pleine nature.
Ta récolte, tu la transformes ou tu la vends telle qu'elle ?
Eh bien, deux. Enfin, les trois même, en fait. Autant que faire se peut, j'aime bien les vendre frais, parce que c'est quand même ce qu'il y a de meilleur. Les meilleures saisons, c'est le printemps et l'automne, c'est là où il y a le plus d'humidité, où les gens finalement aiment bien manger des champignons. Après, quand je ne vends pas tout, je récupère ce que je ne vends pas et je le fais sécher ou je le transforme. Mmh. Et donc, c'est ce que j'ai sorti du four tout à l'heure. Je fais des petits chaussons, puis je fais des petites tartes, je fais des pleurotes à l'huile.
Mais tu le fais pour toi ou pour le vendre ?
Et je les revends après, ouais.
D'accord.
Ouais. Comme ça.
Donc
ici, en fait, on est dans le lieu de fabrication du substrat. ça commence par un broyeur à paille. Donc la paille, en fait, on va la broyer pour que le mycélium il puisse manger plus rapidement, on va dire, cette fameuse paille. Ensuite, ce sera mis dans des sacs en toile de jute que tu aperçois là-bas. On met la paille, on rajoute les petits ingrédients dont je t'ai parlé tout à l'heure, les tourteaux, les pois, etc. Qu'on met dans la cuve. Cette cuve, on va la remplir d'eau pour que la paille, ce soit de la vraie paille humide, puisque le champignon, il aime bien l'humidité. Et une fois qu'il a trempé 24 heures environ, je fais sortir l'eau. Donc il y a une petite sortie là. Et je mets en chauffe le gros bouilleur qui va envoyer de la vapeur via le serpentin. Et ça va pasteuriser comme ça pendant 18-24 heures.
Et après, tu sors ta paille du sac.
Tu sors tes sacs, tu poses tes sacs.
Et tu mets directement dans le seau.
Ah non. On va les mettre dans
une bétonnière.
Une bétonnière, voilà. Qui va, exactement. Qui va nous servir de mélangeur, en fait, pour pouvoir bien mélanger les ingrédients dedans, la paille, les tourteaux, etc. Et pour pouvoir mettre le mycélium de manière homogène dans la paille.
D'accord. Donc tu mets ton bras dans la bétonnière au fur et à mesure pour balancer un peu de mycélium.
En fait, voilà, la bétonnière va être remplie avec le sac de substrat. On va mettre l'intégralité du sac. On la fait tourner. On vérifie la température parce qu'on ne peut pas mettre du mycélium sur un substrat qui est trop chaud, puisque je rappelle qu'il sort de la pasteurisation. Ouais. Donc on attend que ça baisse en température. Et ensuite, on envoie le mycélium, c'est des petits grains de millet qui sont justement ensemencés avec le champignon. Quoi. Et enfin, on vide la bétonnière qu'on met dans des seaux.
Bon, voilà nos ados.
Ouais, ah, c'est des...
Notre bande d'ados hystériques.
C'est des agnelles, celles-là.
Et ouais,
donc elles ont moins de 2 ans, c'est ça?
Ouais, les agnelles qui sont nées au printemps de l'année dernière. J'ai gardé les plus jolies, celles qui m'intéressaient le plus. Et elles seront mes futures mères, hein, les futures brebis.
D'accord.
Voilà, et comme tu le vois, bah, elles sont protégées par un patou.
Oui.
Qui lui aussi est très jeune. Il est en dressage. Donc il apprend à protéger ce tout petit lot, il y a 50 bêtes. Et il va bientôt intégrer le lot des brebis une fois qu'il sera prêt. Donc le principe, c'est que c'est des chiens qui naissent dans le troupeau de brebis. Quand ils ouvrent les yeux, ils ne voient que des brebis. Donc ils s'apparentent à la brebis. Pour eux, leur meute, c'est les brebis. Du coup, ils protègent leur meute et ils le font très bien parce que comme nous, on est dehors toute l'année et qu'on est exposé à la prédation du loup qui est présent sur le secteur, nous, pour le moment, on protège chacun de nos lots d'animaux avec un ou deux patous. Et pour le moment, ça se passe très bien. On n'a pas subi d'attaque. Alors même qu'elles ont eu lieu dans le voisinage, nous, on n'a pas perdu de bêtes. Donc on verra pourvu que ça dure.
Et alors, comment on fait pour gérer ça, là, le stress vis-à-vis du loup? Donc il y a le patou.
Ouais, c'est dur.
Mais on peut pas tout voir, on peut pas tout
surveiller. C'est le pire moment de l'année lorsqu'on apprend que... Alors on a un petit réseau de partage d'informations. Dès que l'un des collègues subit une attaque, et ben voilà, t'as le réseau qui s'alarme et puis l'info est diffusée pratiquement en temps réel, malheureusement. Alors on a le sentiment d'attendre notre tour. On est très mal parce que nous, le loup était présent l'année dernière, en 2021, à l'automne. Ce qui fait que les brebis étaient en train de porter leur agneau. Donc on se demande ce que ça va donner 5 à 6 mois plus tard. Est-ce qu'on va avoir des brebis qui auront avorté à cause du stress? Est-ce qu'on va perdre des brebis alors qu'elles sont pleines? Voilà. Quand les voisins sont touchés et que nous, on est au milieu, ben on se dit, c'est à nous, à notre tour. Quoi. Et du coup, ben, nous, la manière dont on s'est organisé à l'automne dernier, c'est qu'entre mon oncle et moi, on occupait le terrain, c'est-à-dire qu'on était présents, alors que c'est une période dans le travail qui est un petit peu plus soft, où les brebis sont en autonomie dans des très très grands parcs. Bon, ben là, nous, on y allait toute la journée. Donc moi, je sillonnais en journée, je faisais un petit peu de barouf, je me promenais avec mon border, voilà, pour répandre son odeur. Mon oncle, pareil, faisait pas mal de bûcheronnage au même endroit. Et la nuit, on y va régulièrement, pareil, avec la voiture. Je mets même la radio toute la nuit, tu vois. Bon, bah voilà, on utilise ce en quoi on croit.
Dans ce coin de nature paisible.
Eh ben donc non, voilà, je mets Radio Saint-Aff toute la nuit.
Ah, super.
Pour qu'il y ait des... Et puis, non, concrètement, on est quelques-unes. Je dis quelques-unes parce que là, il y a une bande de nénettes qui s'y mettent. On est quelques-unes à passer notre permis de chasse pour avoir le droit, en fait, de porter une arme. Mmh. Et puis, il existe, en fait, des équipes de chasseurs qui peuvent être sollicités, bien sûr sur décision de la préfecture, tout ça est encadré, hein. Attention, on ne fait pas n'importe quoi. Si jamais la préfecture décide que l'on a le droit de tirer en fait, le loup sur des tirs de défense, c'est vraiment dans des fermes très précises qui ont cumulé un certain nombre d'attaques, c'est très très encadré, et bien dans ces cas-là, l'éleveur peut faire appel à des équipes de chasseurs, en fait, amateurs, on va dire. Et donc, on est quelques éleveuses, là, à s'être motivées, il faut bien le dire, à aller passer le permis de chasse pour avoir voilà, de quoi un jour réagir si un éleveur est en difficulté. Moi, je ne pourrais pas le tirer parce que je n'ai pas l'expérience de chasse. Je ne tiens pas à me mettre à ce sport de haut niveau, mais je veux avoir les moyens de réagir.
Ouais.
On souffre vraiment d'un déficit de reconnaissance, ça c'est certain, dans la réalité des événements qui se produisent. Et puis après, tu as cette reconnaissance officielle et ça ne colle pas. Quoi. Parce que en fait, ces relevés qui sont faits à l'issue des attaques, tout ça, ça remonte. Et puis au niveau national, on nous sort des effectifs de loups. Bon, évidemment, c'est une évidence que c'est sous-évalué. Quoi. Voilà. Donc, c'est pas simple. Hein. C'est pas simple. Socialement, c'est pas simple. On sait très bien aussi que l'État, il fait face à des groupes de militants de défense de la nature qui, là, pour le coup, parfois, peuvent avoir la population, on va dire, urbaine derrière eux, mais qui n'est pas avertie, en fait, de la réalité de nos pratiques. Voilà, c'est ça.
Bon, on a fait le tour.
Ouais.
Merci beaucoup.
Bon courage, Gwen, pour le montage.
Je te remercie, ouais. Bon, en tout cas, merci de m'avoir reçu.
Merci de passer, c'est trop cool.
Merci à Gwen et Morgane, jeunes agricultrices conscientes des richesses et des difficultés de leur métier. Retrouvez-nous sur le site radiosaintafrique.com, émission Paroles Rurales. Et rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne.